19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir, bonsoir chers amis auditeurs, c'est parti, vous le savez, au sommaire de cette émission, eh bien plein de choses. Tout d'abord, on va commencer au menu de cette émission, eh bien par un ouvrage qui s'intitule « Guerre en Ukraine, l'onde de choc géopolitique ». Vous le savez, c'est le grand Pascal Boniface qui nous vient de nouveau avec un ouvrage qui fait parler de lui, mais surtout... choc, on en parlera dans une poignée de minutes. Et ensuite après, les débatteurs influenceurs, eh bien, comment trop l'actualité. Nous démarrons cette émission avec le harcèlement scolaire, avec une déclaration choc là pour aussi, oui, une institutrice danoise révèle les secrets des cours d'empathie plébiscités par Attal, on en parlera. Édouard Philippe, ça cogne dur, vous êtes en dehors de la plaque. Qui dit ça? Agnès Buzyn. Petite clochette au passage, Agnès Buzyn qui règle ses comptes. N'est-ce pas un peu trop tard? Bon, ça va commencer là, ça y est, hein, on dirait qu'il y a un petit son de cloche de campagne. Éric Woerth qui, lui, fait aussi une autre déclaration. On peut se poser la question du retour dans leur pays d'origine d'immigrés arrivés légalement en France et qui font le boulot que des Français ne veulent plus faire. Il a déclaré ça sur CNews, le député Renaissance de l'Oise, Éric Woerth. Bon, c'est une question de fermeté sur l'immigration. Ben, on va en parler, tiens, clochette. Hein, on dirait qu'il y a un parfum de campagne. Hein. Tous les gens, ils se lancent en campagne. 0153483000, ça c'est votre numéro, vous le savez, hein, partout en France et dans le monde. Vous êtes de plus en plus nombreux. Vous faites exploser le standard comme vous avez l'habitude de le faire tous les soirs. Et vous êtes prioritaire. Donc vous intervenez, évidemment, quand vous voulez, durant une heure jusqu'à 20h. C'est parti, c'est tout de suite. Mais surtout, ce qui est intéressant, en toute liberté d'expression. Oui ? Pourquoi j'ai eu du mal à le dire ? Ah, parce que ça devient rare. C'est parti.
Les informés. L'interview,
c'est avec Pascal Boniface. Bonjour Pascal Boniface.
Bonjour.
Vous savez, ça me fait plaisir de vous retrouver, Pascal Boniface.
Eh ben oui, ça faisait longtemps.
On aura l'occasion de retrouver vos petits billets d'humeur tous les jeudis, hein, n'est-ce pas, hein. Si vous êtes toujours plaisir. OK. Hein. Dites-moi, bien Pascal sûr. Boniface, vous êtes avec nous. Est-ce que la liberté d'expression existe toujours?
Oui, elle existe toujours. Mais disons qu'il y a des interdits qui ne sont pas des interdits. Je pense que l'autocensure est pire que la censure.
Ouais, c'est vrai.
Et moi, je vois, notamment dans mon métier, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah, mais je pense comme toi, mais je ne pourrais pas le dire publiquement.
Ouais, »
Donc,
vous
je pense que c'est un peu une question de courage aussi. Et donc, la liberté d'expression existe d'un point de vue légal. Après, quand vous dites certaines choses, vous êtes moins bien vu que quand vous en dites d'autres. Mmh. Et vous pouvez, si vous ne respectez pas certaines règles de convenance, par rapport à certains, vous pouvez être un petit peu mis à l'écart ou être moins chouchouté ou être moins présent.
Je vous dis ça parce que vous êtes le président fondateur de l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, ça s'appelle l'IRIS. Vous êtes aussi connu pour votre chaîne YouTube Comprendre le Monde, qui cartonne, je dois le dire. Bravo à vous. Hein. Et vous êtes aussi l'auteur...
Bien.
Absolument, elle marche bien. Hein. Vous avez combien d'abonnés maintenant?
Je compte beaucoup. 65 000.
Ah ouais, bravo. Franchement, bravo. Ah, vous, ça y est, vous pesez là maintenant, désormais. Vous créez un rapport de force, là, dites-nous, avec votre chaîne.
Disons que je fais ma chaîne, comme ça, je dis ce que je veux, et ce qui m'intéresse, ils vont, et voilà, je maîtrise ma parole.
Alors, vous avez écrit plusieurs ouvrages, hein, plus d'une cinquantaine, je crois, je ne sais même plus, je ne les ai pas comptés, mais
70,
je sais que...
Ouais.
70, voilà, précisément.
Ouais.
Et vous, avec le dernier en date, Guerre en Ukraine, l'onde de choc géopolitique. D'abord, bravo, parce que comme d'ailleurs tous les ouvrages que je découvre et que je lis avec beaucoup de passion, vous nous avez embarqué d'ailleurs dans une guerre, dans un truc qui est assez sombre quand même. Hein. Pourquoi parler de l'Ukraine aujourd'hui de façon géopolitique? Pour quelle raison?
On en parle depuis 19 mois, depuis le début de la guerre que la Russie a lancée contre l'Ukraine. Et on débat de cela, mais on en parle un peu différemment dans le monde occidental que dans le reste du monde. Et puis dans le monde occidental, on parle de ce conflit, on met beaucoup en avant les valeurs, etc. Mais en fait, ce sont des intérêts qui sont en jeu. Il faut le dire très franchement, puisque si on parle de valeurs, on ne réagirait pas de la même façon pour l'Ukraine que pour d'autres conflits.
Il y a un passage qui m'intéresse, c'est celui du chapitre 3, Crimes de guerre contre l'humanité. J'ai noté quelques passages, moi, qui m'ont interpellé. J'aimerais avoir peut-être votre décryptage. Vous dites, page 51, c'est vraiment vous démarrez comme ça, vous dites ce respect du droit dans la guerre est lui-même à géométrique variable. Toutes les armées et toutes les nations sont loin de le respecter. Cela dépend à la fois de la nature, du régime politique, de sa sensibilité et non à la pression et à l'image internationale au regard de sa propre opinion publique, et également de la façon dont les militaires et leurs actions sont encadrées. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce qu'elle a du sens, ce passage.
Ben, y a d'autres endroits où des crimes de guerre ont été commis et on a réagi avec moins de vigueur que dans le cas de la guerre d'Ukraine, parce que la guerre d'Ukraine nous concerne directement, parce qu'il y a un peuple dont on se sent plus proche. C'est pas une question de proximité géographique. Tripoli est plus proche de Paris que Kiev. Mais comme l'ont dit certains dans les débats, ils sont comme nous. Et donc, on accueille les réfugiés ukrainiens à bras ouverts. S'ils viennent du sud, on leur ferme plutôt la porte. Donc, dans ces cas-là, qu'on ne vienne pas dire qu'il s'agit de normes universelles, puisqu'on les applique de façon sélective. Il y a une sorte de contradiction. Si les normes sont universelles, on doit les appliquer partout de la même façon. Et on voit bien que ce n'est pas le cas. Alors, je ne dis pas que ce que fait la Russie en Ukraine n'est pas condamnable, bien sûr. Et je le dis, il y a des crimes de guerre qui sont documentés, mais dans d'autres endroits, on est moins prompt à les dénoncer. Et donc, ça veut dire quand même que c'est pas uniquement des valeurs qui sont en cause. Et je consacre, c'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup en ce moment, et on a déjà parlé à votre antenne, Adil, sur la distinction entre The West, les Occidentaux, et le reste, tous les autres. Et effectivement, ce fossé s'accroît, parce que tous les autres voient bien que, bah, des fois, les Occidentaux ne sont pas cohérents lorsqu'ils parlent des valeurs.
Dans le chapitre, vous savez, Pascal Boniface, vous dites « Comment la Russie a-t-elle perdu l'Ukraine ?» Dans un passage, vous dites « Le 17 mars 2014, l'Union européenne et les États-Unis imposent des sanctions à des responsables politiques russes liés aux événements en Crimée qui ont conduit à l'annexion. » Mais je vous pose la question clairement. Alors, d'un côté, les Européens, les Américains, évidemment, s'enflamment en disant « Oui, de toute façon, la Russie a perdu. » Et de l'autre côté, Vladimir Poutine, lui, dit « Oh non, j'ai gagné la partie. » Et de toute façon, pour l'Ukraine, c'est plié. Pardonnez-moi de dire les choses aussi de façon triviale, mais c'est un peu ça que, de l'extérieur, on le vit.
Oui, effectivement. Sauf que Poutine a perdu, même s'il garde une partie du territoire ukrainien, malheureusement pour la Russie sortira plus faible du conflit qu'elle n'y est rentrée. Et Poutine, pendant 20-22 ans, avait patiemment reconstruit une puissance russe et il a un peu fait tapis et il a perdu. Parce que c'est pas tellement les sanctions occidentales qui coûtent à la Russie que l'exode. Il y a un million et demi de Russes qui sont partis. Alors Poutine peut dire bon débarras, c'est les opposants en moins, mais ceux qui sont partis pour fuir la conscription, pour fuir la mobilisation et pour fuir également la répression, ce sont les forces vives du pays, ceux qui peuvent très rapidement s'employer ailleurs, ceux qui sont éduqués, ceux qui sont bien formés et qui vont priver la Russie d'une ressource fondamentale.
Vous dites que l'impossible réconciliation, c'est dans le même chapitre d'ailleurs, clairement aujourd'hui, est-ce qu'on peut espérer une réconciliation? Est-ce qu'on peut espérer un accord de paix ou est-ce que cette guerre est partie pour durer encore des années?
Elle peut durer encore longtemps parce qu'il n'y a pas de vainqueur militaire net. Alors, certains rêvent d'un effondrement de l'armée russe qui peut toujours survenir, mais pour l'instant, il n'est pas survenu. La Russie, de son côté, ne pourra pas conquérir l'ensemble de l'Ukraine. Donc, les deux parties continuent à se battre et ne veulent pas négocier. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer que, par exemple, si Trump est élu, mais c'est quand même seulement dans près de 14 mois, donc c'est loin encore, Trump, lui, il arrêtera directement l'aide que les États-Unis accordent à l'Ukraine. Et ça changerait complètement le rapport de force. Ce qui peut aussi se produire, et ce dont on ne parle peut-être pas suffisamment dans les débats, c'est tout simplement l'épuisement des combattants. Parce que il y a une ressource démographique qui est de plus en plus... Il y a beaucoup de morts. On n'a jamais, c'est un tabou, le nombre de morts. Il y a des estimations qui circulent, 100 000, 200 000, 100 000 du côté ukrainien, 200 000 côté russe. On ne sait pas trop, mais ce que l'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus de Russes qui essayent d'échapper parce qu'ils n'ont pas envie d'aller mourir pour une cause qui n'est pas tout à fait la leur. Et désormais, il y a également beaucoup d'Ukrainiens, les jeunes Ukrainiens, qui désertent parce qu'ils ne veulent pas mourir pour le Donbass. Ils étaient prêts à mourir si Kiev était menacé, là un peu moins. Et bon, on peut peut-être arriver à un point où les deux protagonistes, russes et ukrainiens, seront épuisés et cesseront tout simplement, peut-être sans accord de paix officiel, mais parce que ils voient que finalement il n'y a pas de solution militaire et qu'ils sont épuisés et que leur jeunesse n'a pas envie d'être sacrifiée.
Alors justement, ma dernière question, quand on lit attentivement votre livre, qui est bien documenté d'ailleurs, il est très géopolitique et je pense que nos auditeurs doivent se le procurer très vite parce que c'est un livre qui permet de comprendre les desseins géopolitiques. Finalement, Vladimir Zelensky, est-ce qu'il va ressortir de cette guerre en étant un héros qui marquera l'histoire, dites-moi, Pascal Boniface.
Oui, il va marquer l'histoire. Il est, c'est un héros positif pour le monde occidental. C'est pas un héros pour le monde non occidental, qui estime. Et on voit quand même qu'il y a, commence à avoir des craquements, puisque récemment, le président polonais, alors que la Pologne est le pays qui veut le plus aider l'Ukraine, qui dénonce le plus la Russie, qui accuse le plus les autres pays européens de ne pas en faire suffisamment pour l'Ukraine, le président polonais Duda a dit que Zelensky était comme un noyé, comme quelqu'un qui est en train de se noyer, qui précipite dans sa chute celui qui vient le sauver. Et donc, on voit que les Polonais, tout en réclamant d'aider l'Ukraine, ont interdit l'exportation de céréales ukrainiennes en Pologne et ont décidé de ne plus livrer d'armes. Récemment, ce sont les Britanniques, le ministre britannique de la Défense, qui avait dit qu'il n'y avait pas écrit Amazon sur son front et qu'il fallait que les Ukrainiens cessent de demander cela. Ce que j'explique dans mon livre, c'est qu'il y a quand même un grand paradoxe. C'est que l'Ukraine demande de l'aide à tous les pays occidentaux et qu'en même temps, qu'il demande de l'aide, il pose ses conditions. Généralement, quand on demande de l'aide, on pose ses conditions. Et jusqu'ici, Zelensky a pu poser ses conditions aux pays occidentaux.
Très juste. Le leader européen, vous en parlez aussi, hein, dans la Pologne, pays leader et clairvoyant. Finalement, la France et l'Allemagne, est-ce qu'on peut considérer que c'est toujours les leaders en Europe? Est-ce qu'elle n'a pas perdu un peu de terrain, la France?
L'Allemagne et la France ont perdu du terrain. L'Allemagne, parce que c'est fini le gaz bon marché qui vient de Russie et donc son modèle économique est remis en cause. Quant à la France, son modèle stratégique, c'était des bonnes relations avec Moscou, que Moscou soit la capitale de l'Union soviétique ou de la Russie pour gagner des marges de manœuvre et plaider pour l'autonomie stratégique européenne. Il n'est plus possible d'avoir des relations développées avec la Russie et l'autonomie stratégique européenne, les pays européens, pour le moment, n'en veulent plus parce qu'ils estiment que seuls les États-Unis peuvent les défendre contre la Russie. Ils vont peut-être avoir un réveil difficile si Trump gagnait de nouveau les élections.
J'aime bien parce que la conclusion de votre livre, justement, « Guerre en Ukraine, l'onde de choc géopolitique », en gros, vous dites, c'est Vladimir Poutine qui a déclenché la guerre, c'est sa décision, pas de gagnant, pas de perdant.
Lui, il est perdant parce que sa place dans l'histoire sera nettement moins forte que s'il n'avait fait la guerre. Elle avait continué à faire grandir la Russie. Et là, forcément, c'est une saignée démographique, mais en même temps, un avenir obéré pour la Russie qui est coupée du monde européen alors qu'elle se sent profondément européenne.
Vous avez envie de dire un message à nos auditeurs, à celles et ceux qui vous écoutent ce soir pour votre livre, à contre-courant des analyses émotionnelles aux éditions Erol, Guerre en Ukraine, l'onde de choc géopolitique, Pascal Boniface.
Écoutez, non, j'essaye d'aller un peu à contre-courant des analyses émotionnelles et d'essayer de ramener un peu de raison dans cela et de voir plutôt les choses à long terme plutôt qu'à court terme.
Eh bien, grand merci à vous. Je souhaite un beau succès, comme toujours, évidemment, à cet ouvrage. Et j'invite nos auditeurs
beaucoup,
à se le procurer. Il est magnifique. Et à très vite sur notre antenne, Pascal Boniface.
Avec grand plaisir, Adil, avec grand plaisir.
Bravo en tout cas pour votre ouvrage « Guerre en Ukraine, l'onde de choc, géopolitique aux éditions Erol, à contre-courant des analyses émotionnelles ». Allez vous le procurer, c'est une belle chose si vous voulez apprendre ce que c'est que la géopolitique de ce côté-là, évidemment de cette guerre. On apprend beaucoup de choses dans ce livre. Allez, tout de suite, je présente rapidement les débatteurs influenceurs. Sabrina Nouri, bonjour.
Bonsoir.
La présidente fondatrice de Diplomatie Féministe.
Merci.
Ça va?
Oui, ça va très bien, et vous?
Très bien, vous êtes toujours en bleu, chaque fois que je vous vois c'est en bleu.
Ah bon?
Qu'est-ce qui se passe?
Je sais pas, c'est le mercredi et puis c'est le bleu de Beurre FM tout simplement.
Ah, elle se rattrape bien.
Elle était à la bonne école.
Hein. Elle dégaine. T'as même pas le temps de respirer. Hein. C'est bien. Abdeslamitash, Europe Écologie Les Verts, du côté de Val d'Oise, ça va?
Ça va très bien, et toi?
Très bien. Jeune journaliste, mais brillant, attention, hein, celui qui tient la route. Radouane.
Quel honneur.
Ça va?
Ça va, et vous, Adil?
Opinion internationale et puis aussi journaliste indépendant.
Absolument.
Les deux. C'est ça?
C'est ça.
Radouane Courac est avec nous. Et puis le 0153483000, on va parler de harcèlement scolaire. Chers amis, si vous voulez venir nous en parler, témoigner, c'est maintenant. 0153483000, le standard est ouvert. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Et les informés avec les débatteurs influenceurs, ils sont trois ce soir, Sabrina Nouri, Abdeslamitash et enfin Radouane Courac. Sabrina Nouri, je vous pose la question à vous trois. Contre le harcèlement à l'école, une institutrice danoise révèle les secrets des cours d'empathie plébiscité par Gabriel Attal. Alors, ce fameux plan, on va en parler aussi, hein, contre le harcèlement à l'école. Cours d'empathie, exclusion des réseaux sociaux, les annonces du gouvernement. Sabrina Nouri. Qu'est-ce qu'on peut dire?
Déjà, je voudrais commencer par...
Cette institutrice danoise qui révèle les secrets.
Oui. Donc, alors, je voudrais commencer déjà par une pensée, en tout cas, pour les familles des victimes et les victimes elles-mêmes. On a Gabriel Attal qui peut-être découvre le sujet. En fait, en réalité, il ne le découvre pas, puisque ça ne vous aurait pas échappé que ce n'est pas un nouveau-né dans ce gouvernement. Il a déjà été missionné, il a déjà été en mission dans ministère, au ministère de l'Éducation nationale. Et donc, qu'a-t-il fait quand il y était en 2018 jusqu'en 2020? Rien. Rien du tout sur le sujet. Et là, on... par effet d'annonce, par plan de communication, comme le gouvernement...
Il était secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale.
Exactement. Comme à son habitude, depuis 2017, maintenant, on commence à avoir vraiment l'habitude des plans de communication. Alors, il y a des effets d'annonce, un numéro vert, des sanctions qui vont être vraiment axées sur la sécurité, axées sur sanctionner, en tout cas, les jeunes qui sont potentiellement les harceleurs. Bref, on a tout un effet d'annonce pour pas de moyens. Alors comment on fait quand on n'a pas de moyens, quand les salaires des professeurs ne sont pas revalorisés, quand la formation n'est pas au rendez-vous, quand
vous avez des contre la médecine scolaire, c'est que des annonces pour vous.
Quand vous avez la médecine du travail, si vous avez pas de moyens, vous ne pouvez pas agir.
Mais Sabrina,
tous les plans de communication qui ont été faits depuis se sont faits sur des bases sur aucune base finalement, puisque ce ne sont que des effets d'annonce, et vous verrez que ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas assez de moyens qui auraient été mis sur la table.
Et puis ce programme danois, il a fonctionné, non?
Non, mais ici, c'est la France, d'accord? Nous avons un système éducatif spécifique qui est reconnu internationalement et aujourd'hui qui est en déclin. Adil, il est en déclin. Il faut reconstruire l'école de la République française avec des moyens.
On va en parler, justement. Radon Courak et ensuite Abdeslam Itaj.
Ce programme danois dont on essaie de tirer les bénéfices afin de le mettre en place en France, c'est un programme dans lequel il y a des cours d'empathie. Il s'adresse à tous les écoliers de 6 à 16 ans, à hauteur d'une heure par semaine. Il y a des cours d'empathie. Or, en France, on est en retard depuis un moment sur cette question, la question du harcèlement scolaire. En 2021, le Sénat a publié un rapport qui montrait clairement, les conclusions étaient limpides, France est en retard.
Mais contrairement à ce que dit Sabrina Nouri, on a quand même une méthodologie là. On a une méthodologie qui est axée quand même autour de quatre valeurs fondamentales. C'est quoi? La tolérance, le respect, le soin, Sabrina, et le courage.
Sans moyens.
Mais non, puisque Gabriel
Attal... Ça suffit. À un moment donné, on peut pas. Il y a des enfants qui meurent, ils se suicident, Adil. C'est très sérieux.
Oui, je sais que c'est
là, je n'ai entendu, au niveau du gouvernement, je n'ai rien entendu au niveau des moyens. Aujourd'hui, on le sait, l'école est en détresse, les professeurs, tout l'aspect pédagogique est en détresse. On a besoin de moyens.
Je voudrais qu'on en parle, si vous n'êtes pas d'accord. Il faut qu'on en parle.
Néanmoins, le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, affirme vouloir faire du harcèlement scolaire sa priorité. C'est un jeune ministre.
Oui, on connaît les priorités du gouvernement. Le droit des femmes aussi, c'était sa priorité. Les violences faites aux femmes, c'était sa priorité. On n'en voit toujours pas le bout.
Non, mais l'interdiction de l'abaya à l'école, Gabriel Attal, rapidement, c'est mis en ordre.
Ah oui,
de
alors ça, c'est très rapide. Mais ça, c'est gratuit.
C'est des priorités.
Il n'y a pas de moyen pour mettre en place ça.
Il y a plusieurs priorités dans l'éducation nationale.
Les
femmes mettent ce qu'elles veulent, monsieur. Ce n'est pas Gabriel Attal ou qui que ce soit de leur imposer leur tenue.
On n'entrave pas la laïcité pour une simple et bonne raison. En plus, on a fait ensemble ce débat sur l'abaya. L'abaya est un
vêtement religieux.
Le sujet, s'il vous plaît, on parle de harcèlement scolaire, s'il vous plaît.
D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé l'abaya de la reine d'Angleterre et puis de
c'était
Madame
pas une abaya, ça
allez,
pas c'était pas une abaya.
Parlons du reston, vous n'êtes pas d'accord avec Sabrina.
Les cours d'empathie, en réalité, c'est un bon premier pas, c'est une bonne chose, c'est faire de la prévention, c'est faire de l'instructif. Or, il faut déjà définir ce que c'est l'empathie. L'empathie, finalement, c'est la capacité à s'identifier à l'autre. Et aujourd'hui, on sait que dans beaucoup de collèges, beaucoup d'établissements scolaires, il y a des cas de harcèlement. Et l'école, c'est ni plus ni moins qu'une petite république. Il y a des élections, il y a des règles. Et dans la société, dans la République française, quand une personne entrave les règles, quand une personne va à l'encontre des règles et des principes, elle est sanctionnée.
Il n'y a pas besoin de moyens, là.
Il n'y a pas besoin de moyens spécifiques.
C'est une méthode.
Il n'y a pas besoin de moyens spécifiques pour mettre en place un plan de lutte contre le harcèlement scolaire. Et encore une fois, et là par contre, je suis d'accord avec Sabrina, le harcèlement c'est un poison. Le harcèlement, faut penser aux familles, faut penser aux jeunes victimes. Sans vouloir faire offense à mes camarades autour de cette table, je suis le plus jeune, j'étais à l'école il y a encore quelques années, il n'y a pas si longtemps. On a tous connu dans notre parcours.
Je suis père de 5 enfants. Donc j'ai longtemps
moi,
été concerné. Et j'ai été concerné par le sujet du harcèlement.
Mais moi je voudrais juste rebondir.
J'ai un ami.
J'ai 22 ans.
Non mais vous êtes plus jeune que mon garçon.
C'est formidable. Voilà. Non mais moi j'ai connu des amis qui ont été harcelés. J'ai même eu un ami en classe de seconde qui a été jusqu'à mettre fin à ses jours.
Je vous mets des du poids moi.
Mon fils a été harcelé. Ça va.
C'est toujours dramatique. On fait pas un concours de qui a connu le plus de personnes harcelées. Toujours dramatique le harcèlement.
Non, mais parce que vous avez quitté les bancs de l'école il y a pas longtemps, donc vous connaissez le harcèlement.
Bien sûr.
Je peux vous dire que moi en tant que père, j'ai vécu le harcèlement à travers mon fils.
Bien sûr. Mais on l'a vu sous deux aspects différents. Moi, je l'ai vécu. Vous la racontez.
Moi, je l'ai vécu.
Vous l'avez vécu?
Oui.
Bien, très bien. C'est pas un concours. Et c'est dramatique. C'est un poison, le harcèlement. Et dès lors qu'on veut mettre en place des moyens ou des plans de prévention, il faut les prendre. Or, là, il n'y a pas besoin de moyens spécifiques pour lutter contre le harcèlement.
Vous répondez, Sabrina.
Écoutez, moi, je vous invite à aller dans les écoles, dans les collèges. Je vous invite à y aller
et écoutez.
Je peux pas vous laisser dire ça. Il y a un manque de moyens. L'école est déjà en retard sur énormément de points. Elle doit être reconstruite.
Il faut sanctionner les harceleurs. Il y a le conseil de discipline.
Il n'y a pas assez de moyens. Comment voulez-vous mettre en place un plan anti-harcèlement pour détecter, pour donner des cours, pour détacher des heures,
c'est aussi une mère de famille qui l'a dit. Hein.
Mais écoutez, les emplois du temps sont faits. Les profs, il n'y en a pas. Vous savez combien de profs manquaient à l'appel à cette rentrée?
Mais moi, j'ai une solution.
Vous savez combien de profs?
Combien d'ATSEM
sont en arrêt maladie, elles sont très mal payées. Pour renforcer tout ce système éducatif, pour reconstruire, il faut des moyens et mettre un plan global sur le système de l'éducation de la République.
Abdeslamitash, et ensuite on va l'accueillir. Malika qui nous appelle du 92. J'ignore la ville, mais Malika, vous allez nous dire de quelle ville vous nous appelez. Abdeslamitash.
Alors, plusieurs points. La première, évidemment,
la méthode. Tolérance, respect, soin, courage.
Sur le fait que ce gouvernement a une priorité toutes les semaines. Cette semaine, c'est le harcèlement.
Ça, c'est vrai.
J'attends la suivante. Maintenant, vous savez, aujourd'hui, on propose des choses. Ils découvrent aujourd'hui le harcèlement au bout de 6 ans quand même de gouvernance.
L'ancien ministre en avait parlé.
Je vais vous dire une chose. La première. On menotte un gamin de 14 ans en pleine classe.
Bien sûr.
Que l'école est un sanctuaire. On ne laisse pas la police y rentrer. D'accord? Ça, c'est la première.
La deuxième, c'est la République, la police, c'est la République.
Je vais aller au bout de mon propos, si vous voulez bien.
Je vous ai pas coupé. Je vous en prie, excusez-moi.
Vous aurez la courtoisie de ne pas le faire.
Merci.
La deuxième chose, aujourd'hui, on nous parle de bienveillance. On va nous chercher une méthode qui existe depuis une vingtaine d'années en Suède, qui s'appelait Free for Mobbery, libérée du harcèlement. C'est très bien qu'on veuille justement être dans ça. Mais aujourd'hui, la société, elle est ainsi. Ce que je veux vous dire, c'est que lorsque une maman, par exemple, prend le bus, je vous laisse imaginer, lorsqu'elle voit une agression dans un bus, ou même un homme, ils font quoi? Ils tournent le dos et ils disent c'est pas notre problème, ne regarde pas. Voilà où commence l'éducation. On explique déjà à ces enfants que lorsque l'on n'est pas concerné par le problème, on a juste à tourner le dos. Aujourd'hui, on est dans une lâcheté de la part de cette société, parce que cette société s'individualise. Et c'est là qu'il faut commencer. Ensuite, sur les enseignants, en effet, il manque des enseignants. Ma fille, lorsqu'elle passait le bac, lorsqu'elle était en terminale, elle n'a pas eu de prof d'éco pendant un an. Vous vous rendez compte? Elle n'a pas eu de prof d'éco pendant un an. J'ai dû payer un prof à la maison pour justement rattraper ce retard. Mais vous trouvez ça normal?
Non, je trouve
ensuite,
pas ça normal.
Sur la fonction publique, avant de marquer la pause, je peux vous parler du gel des salaires.
Oui.
Je peux vous parler de la difficulté de ces enseignants.
Alors justement, peut-être qu'on a un témoignage certainement choc. C'est Malika de Boulogne-Billancourt. Bonsoir Malika.
Bonsoir.
Bienvenue ma chère Malika, on vous écoute.
Merci beaucoup. En fait, moi j'écoute beaucoup la radio et puis la télévision là sur le de harcèlement scolaire, mais on parle surtout du harcèlement scolaire qui concerne les élèves à élèves. Mais on ne parle pas du harcèlement de certains profs vis-à-vis de leurs élèves.
Oui.
Et je trouve que ça, c'est beaucoup plus dramatique, parce que quand un prof prend en grippe un enfant, il devient le bouc émissaire, et du coup, il est aussi pris en...
Vous l'avez vécu vous-même ?
Moi, je l'ai vécu quand j'étais enfant, c'est sûr.
Oui.
Mais mon fils l'a vécu il n'y a pas très, très, très longtemps, dans une très...
Ça aussi, c'est du harcèlement, Sabrina, non ?
C'est un harcèlement de quel ordre, madame ? Ce n'est pas indiscret.
Pardon ?
C'est un harcèlement de quel ordre ? Comment ce professeur...
Vous savez, le harcèlement, il peut prendre une multitude de formes. Il n'y a pas besoin forcément... voilà, moi, par exemple, mon fils, c'était le seul qui était équipé de la classe.
D'accord.
Et donc, par exemple, pendant en début d'année, normalement, la maîtresse avait prévu de mettre en place un cahier où elle notait différentes activités que devaient faire les élèves. Donc, il y avait celui qui conduisait la classe, il y avait celui qui ramassait les papiers en fin d'après-midi à 4h30, et puis il y avait le chocolat de Noël. Mmh. Et moi, mon fils, il a levé la main, il a demandé qui voulait être chef de rang, chef de classe. Mon fils a levé sa main, il n'a jamais eu le droit à être chef de classe. Elle l'a toujours embarré et elle l'a mis aux poubelles. C'est-à-dire à 16h30, il devait ramasser tous les papiers que les élèves laissaient dans la classe.
Pas terrible, hein ?
Pardon ?
J'ai dit, c'est pas fameux ce que vous nous racontez.
Voilà, deuxièmement, un mois après... donc, rebelote, elle a demandé à ce que des enfants lèvent la main pour telle ou telle activité. Donc, mon fils rebelote, il a levé la main. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Ben, elle l'a pas désigné pour être chef de classe, conduire du moins les élèves en classe. Elle l'a encore mis aux poubelles. Et moi, je comprenais pas. Donc, quand je venais le chercher le soir, à chaque fois, il était en retard. Et je comprenais pas. Je voyais tous les enfants défiler. Et lui, à chaque fois, il ramassait les poubelles. Donc, du coup, voilà. Un jour, je lui ai demandé, mais comment ça se fait que tu arrives toujours en retard ? Et il m'a dit, parce que je suis obligée de ramasser les ordures, je suis obligée de ramasser les papiers de la classe, et ranger les chaises, etc. Je lui ai dit, mais comment ça se fait ? Et il m'a expliqué un peu le fonctionnement de la maîtresse. Donc du coup, j'ai mis ça de côté. Et puis après, il y a eu les chocolats de Noël. Donc au mois de décembre, ils achètent le calendrier de l'Avent. Donc nous, notre famille commence par le A. Donc théoriquement, il aurait dû avoir un chocolat. Le premier chocolat, ça devait être pour lui. Et bien pas du tout. Elle a estimé que lui ne méritait pas de chocolat, donc elle a donné du chocolat à tout le monde. Et lui, il avait gardé ça, cette rancœur dans son cœur.
Ça s'appelle du racisme, ça, non ?
Pardon ?
Ça, c'est de la discrimination raciale, madame.
Ça. Là, on n'est plus dans l'harcèlement, là. Là, clairement, ça soulève la question. Ça soulève la question, effectivement, ça relève de la discrimination raciale, comme dit...
Oui, oui, mais on ne va pas jouer sur les mots discrimination raciale, etc. Ce que je veux dire, c'est que les gens qui harcèlent, les gens qui sont mal élevés, les gens qui discriminent, ils ont différents outils devant eux. Il y a mille et une formes de discriminer quelqu'un.
Et vous avez raison. Malika, etc. Je vais marquer une pause et vous avez raison de le dénoncer. Merci pour ce précieux témoignage concernant votre fils. Merci Malika.
Je vous en prie, au revoir.
Merci, à très bientôt. 0153 48 3000. Continuez de nous appeler avec évidemment les témoignages concernant le harcèlement à l'école. On marque la dernière pause pour se retrouver pour la dernière ligne droite avec Sabrina Nouri, Abdeslam Itache et Radouane Kourak. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Et Les Informés, c'est avec Sabrina Nouri, Radouane Kourak et Abdeslam Itache. On va parler de ce sujet, vous savez quoi ? On peut se poser la question du retour dans leur pays d'origine. Justement, on a retrouvé l'extrait. C'était Eric Woerth chez nos amis de CNews. C'est un extrait. On va écouter et on revient justement commenter cela. Écoutons.
Pas uniquement de la politique de posture, mais c'est aussi de la politique de conviction. Ah, je ne sais pas, on verra. On verra. Je ne sais pas où en sont les discussions de Gérald Darmanin. Il n'est pas choquant de se dire qu'à un moment donné, le texte doit être un texte de fermeté, moins de migration, plus de OQTF, c'est-à-dire plus de personnes qui sont renvoyées dans leur propre pays quand ses propres pays les acceptent. Si c'était aussi simple, ce serait déjà été fait. Donc, en tout cas, plus de fermeté, une grande fermeté sur l'immigration, mais aussi une grande capacité d'intégrer quand on accepte une immigration. Et quand il y a des personnes qui sont au travail, qui sont rentrées de façon légale en France, et s'ils sont rentrées de façon illégale, ça ne marche pas. Mais qui sont rentrées de façon légale en France, on peut se poser la question de savoir s'il faut les renvoyer. Pour les ramener à un moment donné, vu qu'il y a des Français qui ne veulent plus faire le boulot qu'ils font.
Extrait sur CNews, Eric Woerth. Sabrina Nouri, qu'est-ce que cela vous inspire?
Bah, ça m'inspire qu'on arrive à la, on est à la 22e proposition de loi ou projet de loi sur l'immigration, qui n'a jamais été ni contrôlé ni évalué. Ça veut dire qu'on ne sait même pas qu'est-ce que ces lois produisent. Et aujourd'hui, on arrive avec une énième proposition, avec des choses à l'intérieur qui paraissent inhumaines. Comment voulez-vous qu'un immigré qui arrive sur notre territoire de façon légale, hein, avec un titre de séjour qui est valide pour un an, parce que c'est ça la proposition en réalité, ce qu'il veut dire, c'est que le titre de séjour est valide pour un an, pour des métiers qui sont dits en tension. Et ça veut dire que à tout moment, on peut renvoyer ces personnes dans leur vie, dans leur pays d'origine. Non, franchement, là, on est encore sur des effets d'annonce et un durcissement sur l'immigration. On est en train de faire les yeux doux, encore une fois, à l'électorat de Marine Le Pen.
Ouais, ouais, c'est ça.
C'est dramatique. C'est comme ça. C'est je vous dis, 22e proposition de loi. C'est juste énorme en très peu d'années. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est faire comprendre aux citoyens, aux citoyennes français et puis françaises que l'immigration n'est pas une fatalité. L'immigration, enfin, il ne faut pas avoir peur de l'immigration parce qu'on a l'impression que c'est une invasion. On parle du grand remplacement.
Sauf qu'on parle de l'immigration, là.
En réalité, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas.
Oui. Alors deux éléments.
Fermeté, c'est
dans,
ça.
Dans quelques semaines, on va arriver sur les débats parlementaires qui auront lieu sur ce projet de loi sécurité immigration qui va arriver devant le Parlement. Même au sein même de la majorité d'Emmanuel Macron, il y a beaucoup d'opposants. Tout de même, je pense au propos de Sacha Houlié qui est pas très favorable, le président de la commission des lois. Donc finalement, la dernière cartouche du gouvernement pour pouvoir faire passer ce texte, c'est à la fois LR et peut-être aussi un peu le Rassemblement National. Donc il y a une volonté de co-construction d'un projet commun, de trouver un consensus. Or, il est important de rappeler, que j'ai vu aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il y a eu une confusion sur les propos d'Eric Woerth, qui, en fait, il y a un extrait qui tourne avec des propos sortis de leur contexte. Eric Woerth, je l'ai joint avant cette émission, il m'a confirmé que déjà les propos étaient sortis de leur contexte et je l'ai eu au téléphone.
Vous avez échangé avec lui.
J'ai échangé avec lui.
Et il dit que c'était hors contexte.
C'était hors contexte et Eric Woerth m'a confirmé qu'il était bien pour la régularisation des travailleurs étrangers dans les métiers en tension. Il n'est pas question de les exclure. De toute manière, il n'y a pas d'autre possibilité aujourd'hui. Mais la réelle question qu'il faut se poser, c'est pourquoi aujourd'hui on a des métiers en tension en France ? C'est les conditions peut-être salariales, les conditions de travail qui ne sont pas réunies. Aujourd'hui, les Français ne veulent plus travailler pour des conditions de misère. Les gens se lèvent à 5h du matin parfois, font 2 heures de RER pour parler de l'Île-de-France, rentrent chez eux, il est 18h, pour gagner 1 200 € à la fin du mois. Permettez-moi de...
Des fois, bien plus que 18h, ils se lèvent très très tôt le matin.
Avec tous les frais que ça incombe derrière. Or, là par contre, je ne serais pas d'accord avec Sabrina sur cette question de l'immigration. Au-delà des métiers en tension, l'immigration, on en a besoin, mais il faut une immigration choisie et contrôlée.
Choisie et contrôlée, ça me rappelle un certain discours.
Oui.
Non mais bon, c'est son commentaire. Hein.
Vous savez, nous sommes des enfants d'immigrés, des personnes qui sont venues reconstruire la France après la guerre. Et moi je trouve navrant qu'aujourd'hui, nous-mêmes, enfants d'immigrés, on est à tenir ce genre de propos sur une immigration choisie, une immigration subie et je ne sais quoi. Mais je voulais juste revenir moi sur les propos de Eric Woerth, parce qu'en fait sur l'audio que l'on a entendu, il y a une phrase qui fait le sujet polémique. C'est, il dit, vu qu'il y a des postes dont les Français ne veulent pas. Et c'est bien ça le problème.
C'est bien ça le problème.
Et tu as raison lorsque tu parles de ces personnes, parce que moi je les croise dans le RER, le premier RER que je prends, le RERD qui va à Paris. Eh bien, il faut juste prendre une photo, 5 heures. Il faut juste prendre une photo de la gare avec toutes les personnes qui attendent, ou alors les prendre dans le train. Ce sont exclusivement, enfin quasi exclusivement, que des personnes issues de l'immigration d'origine africaine et en effet il y a des métiers dont les Français ne veulent pas. Quand je dis les Français, entendons les Français hexagonaux comme qu'on aime les dire. Et aujourd'hui, il y a une sorte de d'ingratitude à l'égard de ces personnes-là qui justement ouais. permettent à ce que la France, justement, c'est eux qui réveillent la France, c'est eux qui justement, à travers la sécurité, le ménage, qui sont aides-soignants, qui sont à tous les postes, qui sont cantonniers, qui nettoient les rues et autres, et on les insulte de cette manière-là. Mais je vais aller plus loin. En les insultant, on insulte nos parents. Nos parents qui justement sont venus pour travailler, pour justement gagner leur pain de façon honnête.
Les parents doivent se sentir insultés.
On traite les personnes avec inhumanité.
Je pense surtout qu'on est en train de se tromper de combat. Aujourd'hui, l'immigration, il ne faut pas la voir comme quelque chose de négatif.
Mais il faut qu'elle soit contrôlée.
Bien au contraire. Mais il faut qu'elle soit contrôlée dans le
si jamais c'est contrôlé, vous seriez
où
peut-être
il
pas
faut
là.
Aller dans les pays d'origine.
Ma mère est vosgienne depuis 1789 et là je n'ai pas pu remonter.
C'est pas une question de contrôle, c'est une question de savoir et d'essayer de comprendre pourquoi ces gens partent.
Certes, mais
parce
la France n'a pas vocation
moi,
à accueillir toute la misère du monde.
La France sur des contrôles aux frontières.
Pas venez comme vous êtes.
Je ne suis pas d'accord sur des contrôles aux frontières sans avoir réparé ou sans m'avoir même posé la question de pourquoi sont-ils
donc
partis.
Donc on doit accueillir tout le monde.
On ne part jamais par plaisir. On ne quitte pas ces terres par plaisir.
On accueille proportionnellement à nos besoins.
La France a été un pays colonisateur.
Mais la France,
Sabrina, vous devez finir.
Je voudrais juste terminer pour dire que on ne part jamais par choix et que demain il y a un enjeu qui va être extrêmement majeur, c'est le réchauffement climatique. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Vous faites quelque chose de choisi?
Non, mais ça deviendra la prochaine priorité.
Il n'y aura pas d'autre choix. Ça veut dire que pour vous, la France a vocation à accueillir la terre entière.
Et ce que je voudrais vous signaler quand même, parce qu'il faut quand même regarder la géopolitique, c'est que Aujourd'hui, elle prend juste sa part.
Donc comme tous les pays européens.
Donc pour vous,
c'est que la France a construit l'Algérie.
La France a colonisé. Certes, c'était il y a plus de 60 ans. Mais entre temps, les pays ont été reconstruits. Il y a des infrastructures qui ont été laissées en place.
C'était bien colonial, la France.
Et alors, c'était il y a plus de 60 ans.
Vous disiez tout à l'heure que la France n'était pas un empire colonial.
Aujourd'hui, en 2023, la France n'est pas un État colonial. La France en 2023 n'est pas un État colonial.
Vous savez le pays qui réceptionne le plus d'immigrés dans le monde, vous savez quel est? C'est l'Inde. Donc vous savez, c'est sud-sud. C'est pas sud-nord.
Si les Indiens ont envie d'avoir une
immigration
contrôlée,
et aujourd'hui nous avons un problème majeur, il faut préparer le réchauffement climatique et l'immigration de masse qui va arriver, que vous le vouliez ou non. Donc, soit nous prenons le problème dès maintenant et nous agissons pour demain.
Et il y a l'immigration climatique.
Soit vous allez vous retrouver dans une posture sectaire.
Si un jour vous voulez pouvoir toucher votre retraite, vous avez tout intérêt justement à permettre à ce que les gens viennent travailler.
Mais je suis pour un système de capitalisation, moi, monsieur.
Ce n'est pas un phénomène de peur. Ce sont des êtres humains comme vous et moi. Ils ont le droit de vivre dignement.
Il faut faire de la coopération internationale. Il faut permettre aux pays africains de se développer. Il faut les accompagner dans leur développement.
Il faut aller regarder pourquoi ils partent. Donc développer leur pays, laisser le développer eux-mêmes.
Sans pour autant les accueillir.
On voit bien le rapport à l'Afrique de la France. Et ça, vous ne pouvez pas le nier. Vous êtes justement pour une coopération décentralisée. On la réclame tous. Moi, c'est le regard de la France vis-à-vis de l'Afrique qui me pose problème. voyez, c'est bien ça le problème. Il faut absolument qu'on change de braquet. Il faut qu'on soit dans un échange gagnant-gagnant avec l'Afrique. Si on veut justement arrêter le flux de migration et permettre aux gens, vous savez, c'est pas par gaieté de cœur que les gens montent sur un bateau pour traverser la Méditerranée. D'accord. Et beaucoup de gens meurent. Et beaucoup de gens meurent. D'accord. Alors un peu de respect déjà.
Vous savez, demain, c'est peut-être vous qui
migrerez. Je ne quitterai pas mon pays. Je n'ai insulté personne et on ne quitte jamais son pays par gaieté de cœur.
Oui, oui.
Les gens qui quittent leur pays, qui prennent des risques.
Et si on permettait,
les gens qui prennent des risques à traverser, à ces mêmes personnes.
De pouvoir les sauver,
vivre dignement dans leur pays. Ouais. C'est logique.
Merci à vous. Effectivement, ça promet les débats à l'Assemblée.
Ah, ça va être houleux, oui.
Ouais, ça va être houleux.
Je pense.
Je pense aussi, je confirme. Merci à Radouane Kourak.
Merci Adil.
Journaliste, y compris à Opinion Internationale. Merci à Sabrina Nouri, la fondatrice et présidente de Diplomatie Féministe. L'Europe Écologie est vert, dans il 95, est il est là. Abdeslam Itach, à bientôt.
À bientôt.
Prenez
à bientôt.
Soin de vous. À la réalisation, c'était Solal. 20h-21h, c'est Time Sport avec Bilal. Et puis Vanessa, 21h. Quant à moi, je vous retrouve demain avec autant de plaisir. Mais surtout,
on ne lâche rien. Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.